bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Alison Wheeler et Tanguy Passureau. Au programme aujourd'hui, Karine Viard, la bande originale d'Emmanuel Devos et Jean-Loup Dabadi et en live, Hugh Coltman, le meilleur de la bande originale. C'est parti. Karine Viard.
J'étais un peu stressée quand même, hein, dans le taxi.
Faut
je dois
pas.
Vous avouer.
Faut pas.
On vous a attendu.
Bien débrouillé,
on sait, on sait, on sait que c'est pas de l'impolitesse et que c'était juste des embouteillages. Vous inquiétez pas.
Des travaux, des embouteillages.
M'en parlez pas.
La pluie.
Bravo, Anne Hidalgo.
Okay,
tout ça.
Était
peut...
sur le capot.
Parlons donc de cette pièce. On a déjà donné le casting à ce micro avec la mise en scène d'Élise Vigier et Marcia Di Fonzo qui joue aussi de temps en temps dans la pièce. Ça s'appelle Vera. Ça commence et ça installe bien l'esprit. Vous êtes une sorte d'agent ou directrice d'agence, en tout cas de modèle, de mannequin, de comédien. Et vous débarquez dans une espèce de morgue pour constater, reconnaître le corps d'une personne qui a mis fin à ses jours. Cette personne vous a appelé près de 200 fois sur son portable avant de mettre fin à ses jours. C'est pour ça que la police veut savoir évidemment qui vous êtes.
Exactement.
Par rapport à elle et pourquoi
et
vous êtes
réponds,
là.
Je réponds, mais enfin, si quelqu'un se suicide uniquement pour m'obliger à répondre au téléphone, ça n'a quand même pas de sens. Non.
Et là, vous n'en avez...
Le ton est donné.
Voilà, vous n'en avez rien à faire. On a quelqu'un d'extrêmement désagréable, femme d'affaires, qui pense qu'à son business au détriment des êtres humains.
Je ne suis pas d'accord.
Ah bon,
je ne suis pas d'accord. Non, c'est une femme, effectivement, qui n'est pas très gracieuse au départ.
Ouais.
Disons que c'est quelqu'un qui dans cette République tchèque post-chute du mur, veut, c'est le libéralisme sauvage. Et elle a fait de ce libéralisme sauvage vraiment sa devise. C'est-à-dire qu'elle veut très bien travailler, elle a beaucoup d'ambition. Elle est quand même entourée par un père, un mari et un frère qui ne cessent de lui dire « arrête de travailler, fais des enfants, c'est la place de la femme ». Et elle, dans
elle
cette
reproche,
espèce de société,
elle reproche à son père de ne pas avoir fui à l'époque,
de ne pas
et
avoir
d'être
fui effectivement, parce
mur.
Que tout le monde, parce que c'est c'est quelqu'un qui a inventé des choses, etc.
Et
c'est,
qui aurait pu
qui a
faire
fait de la recherche,
voilà.
Qui aurait pu
et
faire fortune, et surtout qui aurait pu leur proposer une autre vie que celle qui a été vécue, avec voilà un patriarcat très fort. Donc au départ, on est effectivement très critique face à ce personnage qui est très drôle, mais très cynique, très corrosif, qui a une certaine brutalité. Et puis au fur et à mesure de la pièce, c'est je crois la force de l'écriture et me semble-t-il de la mise en scène, c'est de qu'à un moment donné, finalement, chez ce personnage, il y a quelque chose de nous-mêmes, de notre humanité qu'on reconnaît. Ouais. Et à partir de là, arrive une chose d'empathie avec ce personnage qui est assez troublante, parce qu'on ne sait pas très bien à quel endroit elle agit.
On peut le dire, il y a une deuxième partie dans la pièce où c'est la chute, les actionnaires anglais
exactement,
ou américains
ouais,
la virent de son propre
de sa
bureau.
Propre agence,
elle ne peut même plus, elle n'est même pas accueillie, elle est à nouveau jetée par la secrétaire. Il y a une scène très très drôle aussi où vous
la secrétaire qu'elle a humiliée est trop
dégage,
contente de pouvoir...
Dès qu'elle arrive avec son téléphone, elle dit « dégage avec ton téléphone !» Elle lui parle vraiment, c'est l'habit, le diable s'habille en Prada, quoi. Elle est vraiment odieuse. Et quand elle revient en disant « est-ce que je pourrais rentrer dans le bureau ?» et ainsi de suite, évidemment, la même secrétaire se fait un malin plaisir de ne pas la laisser rentrer.
On croise toujours quelqu'un dans l'escalier, quoi. Ouais. Qu'on monte ou qu'on descende, on finit par se recroiser.
C'est
fait.
Surtout l'ascenseur qui est important
dans
la pièce. Très important cet ascenseur.
Et c'est vrai que c'est à la fois une pièce extrêmement drôle, qui porte aussi du tragique, du burlesque.
Oui, parce qu'il y a la deuxième partie, donc je disais la déchéance, celle où elle est totalement, elle devient pratiquement SDF, plus personne ne veut lui parler, même les membres de sa famille lui en veulent un peu. Il faut rappeler quand même, vous parliez de votre frère dans la pièce, vous avez quand même fait poser nu sa fille, donc il vous en veut un tout petit peu.
C'est elle qui a voulu.
Hein. Ouais,
voilà, jusqu'au bout dans le personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est pas un personnage si manichéen que ça. C'est-à-dire que on comprend davantage avec ce patriarcat imposé comment quasiment contre elle-même. Elle s'est érigée en femme pseudo-forte avec des codes
exactement.
Qu'elle ne maîtrise pas totalement.
Ouais. Exactement.
Et elle ne trouve qu'une forme de soit violence verbale, soit de confrontation un peu physique pour exister en fait, en tant qu'individu.
Et moi, c'est un personnage vraiment. Au théâtre, je crois que j'attendais ce personnage. Ouais. C'est très bizarre parce que parfois on a des rôles qui peuvent être assez éloignés de soi et pourtant ce sont ces rôles-là qui nous permettent de nous rencontrer nous-mêmes. C'est très étrange et j'ai ce sentiment avec ce personnage. Elle a à la fois une force de résistance incroyable, c'est-à-dire que même quand elle est dans la merde, jusqu'au cou, elle continue à garder cette espèce de morgue, ce qui est quand même une chose très très forte. Mmh. Et voilà, moi je sors pas pendant les 1h50 que dure la pièce. Mes partenaires valsent autour de moi en jouant eux plusieurs personnages, ils se déguisent, ils se mettent une moustache et tout ça. Donc à la fois on est dans du burlesque et moi j'assume le côté vraiment très planté dans la terre, très, très violent, très brutal comme ça. Et je m'éclate. Mais qu'est-ce que j'aime ça.
Et la mise en scène, il faut en parler quand même, parce qu'elle est osée. Ouais. Cette mise en scène se fait aussi avec des projections, des mini-sketchs tournés. Je pense à la présence de Michel Drucker dans l'un de ces sketchs.
Oui, parce que ça parle que du showbiz, des émissions, la pub, les mannequins qui viennent, toi pas toi, oui toi viens pour la pub, toi tu dégages. C'est vraiment la chair quoi, la chair à canon comme ça.
C'est ça va même jusqu'à l'escort girl. On se demande aussi si ça,
oui,
son agence va pas devenir une agence d'escort.
Oui, tout à fait, mais parce que en République tchèque, des fois, tu vois une hôtesse de l'air, mais en même temps, tu te dis, mais elle est pas un peu pute. Mais ça reprend. Mais oui, c'est très étrange. C'est une société très étrange.
Pourquoi vous avez pris une hôtesse de l'air comme exemple, je sais pas, les
non,
pauvres.
Non, votre femme est hôtesse de l'air.
Non, pas du tout. Mais comédienne, c'est pire.
C'est bien pire. Mais je dis non, mais parce que t'as une attachée de presse qui arrive. Et puis tu sais pas, au bout d'un moment elle te fait des propositions, c'est un peu bizarre, un peu ambigu. Donc ça joue aussi avec ça. Je suis allée en République
tchèque. Oui, j'ai l'impression que c'est du vécu ce que vous racontez.
Oui, c'est du vécu. Mais c'est vrai, c'est très étrange. Les femmes là-bas, le rapport à la sexualité est très étrange. Donc il y a ça aussi dans la pièce.
Et pour en revenir aux projections faites, il y a des moments où vous rentrez dans un ascenseur, enfin souvent même l'ascenseur a encore une fois, c'est carrément un personnage clé dans cette pièce et dans la mise en scène et où vous jouez à deux ou à trois, vous jouez, vous rentrez dans l'ascenseur, les portes se ferment et là on voit ce qui se passe dans l'ascenseur grâce à des écrans.
Ouais.
Donc ça continue de jouer sur les écrans et puis vous ressortez. Donc on imagine que tout ça aussi, c'est comme une danse, il faut que ce soit très rythmé, synchronisé.
Ah oui, bien sûr.
Jusqu'au moindre mouvement
pour
être raccord.
Moi, en fait, je trouve que cette pièce, bon, évidemment, j'en fais la promotion, mais comme vous voyez, je suis très impliquée parce que vraiment j'adore ce spectacle.
Très à l'heure.
Merci de me le rappeler. Non, mais je trouve que cette pièce, elle est chouette à voir pour des ados. En fait, parce que c'est un procédé théâtral qui fait que la pièce est quand même très accessible. Hein. Mmh. C'est pas une pièce compliquée et tout ça. Il se passe toujours quelque chose. Il y a une énergie très très forte. Mais je pense par exemple que pour les ados, les parents qui ont envie d'aller au théâtre, de faire des choses avec leurs ados un peu grands, je trouve que ça c'est l'endroit. Parce que il y a quelque chose de la problématique de cette pièce qui est vraiment une problématique que les ados ont beaucoup. Mmh. C'est-à-dire comment s'inscrire dans la société, cette société folle dans laquelle on est, qui maltraite les individus, la réussite à tout prix,
la
qui
lumière,
leur fait prendre parfois des voies de traverse.
Ouais.
Donc ça prend ce sujet-là en plein. Ça provoque beaucoup de sentiments parce que finalement le langage est assez cru, assez direct comme ça. Donc il n'y a pas le caractère ampoulé qui fait que les ados peuvent éventuellement s'emmerder. Et puis il y a effectivement la vidéo, quelque chose qui... Il y a aussi comme
le
procédé...
Chant aussi. Hein, il y a le chant.
Il y a le chant, mais il y a aussi un procédé de décor qui fait qu'en fait tu vois la pièce se passer et tu vois tout le tour de la pièce, c'est-à-dire les techniciens qui viennent. Donc tu as sans arrêt le squelette de ce qui est en train de se faire. C'est moderne, mais c'est... Mais c'est assez fort. Et moi, je trouve que c'est chouette pour des ados de voir ça.
Ça s'appelle Vera et ça sera à partir de la semaine prochaine, le 13 mars pour être précis, au Théâtre de Paris, qui est un très beau théâtre parisien. Et j'espère que vous avez bien compris, Jean-Dominique Besnéard, pourquoi Carilla a été notre invité.
Oh là 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 là. En tant que cousin de Dominique Besnéard, l'ex-agent des stars et super as du casting, je vous avoue, cher Nagui, j'ai été sacrément secoué par cette pièce de Petr Zelenka.
Petr Zelenka, soyez respectueux.
Alors comme je le vous disais ce matin dans le bureau de la bande originale, que cette Vera prête à... tout sacrifié pour sa réussite, qu'elle me glace le sang. Vous m'avez répondu, mais je la trouve pas assez cynique. Pour réussir dans le showbiz, il y a deux conditions sine qua non, comme dirait Léla qui parle couramment le latin.
Oui.
Primo, s'entourer d'une bande de tocards qui ne peuvent pas vous faire de l'ombre, comme moi, France Inter, avez-vous précisé, Nagui. Deux JO, flatter les actrices qui ont du succès, bien leur mouiller la compresse, même quand vous n'avez rien à cirer de leurs prestations, comme moi, France Inter, avez-vous précisé, Nagui. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai pigé une chose. Gérer une agence de casting, c'est un sacré business. Je vais vous dire...
Ça s'appelle pas bafouiller, monsieur.
Voilà. Je vais vous dire si je regrette pas de pas avoir pris la succession de mon cousin et si je me réjouis d'avoir conservé mon job d'orthophoniste et star. Alors, ménager les ambitions d'acteurs narcissiques, les frustrations d'actrices dépressives et vice-versa, c'est pas une sinécure, que ce soit en France ou dans ce pays bizarre dont vous avez parlé. Bon, bref, je renonce, je passe le crachoir au maréchal Ganache.
Merci.
Ah, merci, Jean-Dominique. Ça va mieux comme ça. Comme je sens que le crachoir n'a guibre de le reprendre, je serai bref. Madame Viard, bonjour. Je dirais qu'en acceptant de jouer le rôle de cette Vera, vous avez montré que vous en aviez dans le froc. Et venant de moi, croyez-moi, c'est un sacré compliment. Non seulement Vera mène ses affaires sans aucun état d'âme, mais là où elle m'a le plus impressionné, à la scène 5, c'est quand elle fait croire à une collègue que le cul occupe toutes ses soirées, alors que le cul en question est celui de son mari meurtri dans sa chair,
qu'elle
comme
soigne.
Moi, et qui se déplace avec difficulté, comme moi, un postérieur dans lequel elle a plaisir à planter une seringue. Une situation qui me rappelle celle où je fus réduit suite à la mutilation que m'infligèrent jadis les Viettes contre les Viettes. Et qui limita les relations charnelles que je pouvais avoir avec Edmond, mon épouse et infirmière. Relation réduite à un jeu de fléchettes consistant à jeter des seringues de morphine sur mon croupion en guise de cible, si possible en le plantant bien au centre, dans ce qu'on appelle, en langage de précision, l'œil de bœuf. C'était en 1954.
Non, non.
Mais, effectivement, ravivant ses souvenirs... C'est aussi la douleur que je réveille. Voilà. Aussi, vais-je devoir vous quitter? Je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes.
Il faut y aller maintenant. Merci beaucoup, Elgar.
France Inter, le meilleur moment de la bande originale avec Nagui. Anybody here remember
Berlin? La musique, Léa a raison, est présente dans,
oui,
dans cette
oui,
pièce.
Oui, oui.
Très présente, y compris quand vous vous déchaînez sur une piste de danse. J'ai adoré réentendre ce morceau.
Fade Grey. C'est très bon.
C'est vachement bien, visage.
Ouais. Ouais.
Fade to Grey. Elle danse comme une folle lorsque le barman la reconnaît. Alors là, non, on vous dévoilera pas ça. Il faut quand même que vous découvriez pourquoi vous êtes une star sur YouTube malgré votre situation, votre déchéance. Vous devenez une star sur YouTube.
J'aurais préféré me faire connaître autrement, mais bon, faut saisir la chance quand elle se présente. Non
oui, c'est ça. Et,
c'est ça que je dis.
Et c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis aussi.
Oh.
Et c'est important à ce moment-là dans cette pièce.
Mais c'est vrai qu'il y a des choses assez, je sais pas, assez prenantes. Au final, hein. Ce personnage qu'on déteste au départ et qui finalement arrive à nous faire pleurer à la fin, c'est...
Il a des côtés attachants et sympathiques même.
Oui, c'est-à-dire que tu te dis qu'elle est elle-même victime d'un système.
Oui, on la comprend.
Elle devient subversive à certains moments.
Ouais,
C'est une bonne leçon aussi pour calmer un tout petit peu ceux pour lesquels tout va bien, justement. Quand on voit cette pièce, on se dit que c'est extrêmement fragile et qu'il faut plus s'attacher aux êtres humains qu'au rythme imposé par une société, soit des résultats.
Puisque là, il y a les
actionnaires qui viennent réclamer des résultats. Ouais.
Elle est victime d'elle-même, victime d'un système et en même temps elle ne s'avoue jamais battue et elle ne se plaint jamais de rien.
Ouais.
Moi c'est un personnage mais que j'adore quoi.
Et qui est un peu dans le monde du cinéma, du théâtre agent avec un comédien qui s'appelle Bob qui lui aussi
traverse des moments difficiles
qui prend des médicaments qui fonctionne pas du tout et qui est en même temps la star de son agence donc il faut un peu bichonner. Et qui en même temps est insupportable, plante des journées de tournage, n'y va pas,
Et à qui et elle... ça, on peut pas s'empêcher de vous demander si dans votre métier autour de vous, vous reconnaissez d'autres...
Qui est Bob ?
Oh non, non, bah, c'est vraiment une caricature, mais en soi, ça pourrait exister, c'est oui, ça. Bien sûr, oui, oui, tout à fait, tout
on,
à fait.
On peut péter un câble, quel que soit le métier que l'on occupe. Et,
Oui, mais c'est vrai qu'acteur, c'est un bon métier pour péter des plombs. Hein. On a quand même beaucoup la pression, on a beaucoup le pouvoir, les gens s'occupent beaucoup de vous, c'est le lieu de
et que c'est un métier aussi pour et c'est un métier aussi pour craquer, parce que vous êtes à la fois dans le jeu, pardon, mais aussi dans le regard des autres, c'est-à-dire qu'on se sent à la fois le yaourt et le pot de yaourt, c'est-à-dire qu'on est l'emballage, on doit continuer
de
plaire. La
parabole de Danone, il est fort.
Non, mais j'essaye, non, mais c'est pas ça. C'est
oui,
pas
oui,
ça, maman.
Non, c'est
tu n'es pas uniquement jugé sur ton travail, mais une comédienne peut se poser la question de savoir si son physique, si les années vont jouer ou pas, si elle a le droit de prendre du poids ou pas.
Le doigt aussi.
Ouais. Le doigt aussi.
J'ai le doigt ou pas. On en revient à un test de l'air.
Le doigt surtout.
Ah, ok, c'est ça. Ok, donc on ne sent rien passer. Ok, j'ai compris l'esprit de cette bande.
Non, mais c'est certain.
De acteur, la fragilité. C'est ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, puis effectivement, il y a des moments où tu serais content de t'oublier un petit peu, de ne pas te voir. Et puis, la notoriété, le fait de travailler, travaille toujours à ça. Et en même temps, il vaut mieux travailler que ne pas travailler. Ça.
Alison.
Vous êtes nourrie d'expériences personnelles de casting un peu foireuses dans votre expérience ?
Non, pas du tout. Mais j'ai pas eu besoin. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose que je comprends parfaitement. Tout ce qui est mis en place, je le comprends. Après, c'est tiré au maximum pour provoquer le rire, bien etc. Mais je connais. La base, je la connais parfaitement. L'humiliation, le côté c'est pas toi, c'est une autre, on s'en fout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux. Tout ça, c'est... Moi, je fais très attention à ça. Par exemple, quand sur des tournages, il y a des acteurs qui arrivent pour une journée, des jeunes acteurs, ils connaissent personne, ils flippent, c'est atroce. Venir pour une journée de tournage, c'est affreux. Donc moi, j'essaie toujours vraiment d'être accueillante, accompagnante et encourageante. Parce que sinon,
oui, Yannagui, c'est possible.
C'est Karine Viard, c'est la différence.
Moi j'ai de l'empathie. Je suis douée d'empathie.
Voilà. Leïla, vous auriez sifflé quand on vous a dit que Karine Viard venait.
Oui, alors quand je pense à vous, Karine Viard, je pense à pas mal de choses. Une petite pour commencer, j'espère que ça va vous refaire sourire.
C'est une phrase que je dis souvent, en fait.
Ça c'est vrai. Ah ouais.
Encore
oh non, j'adore. Oh non, mais tu sais,
c'est de la stigmatisation ça.
On ne l'a même pas entendu, mais c'est pas très grave. Mais alors moi, quand je pense à cette émission, mais j'ai tout de suite les larmes qui me viennent. Je repense à vous dans la bande originale et cette référence à Blondie que je tairai, mais en tout cas, ça reste un très très beau souvenir de cette émission.
Je suis très gaffeuse.
Mais oui, mais c'est génial. Mais sincèrement, vraiment, plus sérieusement, quand je pense à vous, je pense aussi à un comédien.
The defense has brought to Hillsborough a great expense and great inconvenience. 6 noted scientists. Their testimony is basic to the defense of my client. For I intend to show this court that what Bertram Cates spoke quietly one spring morning in the Hillsborough High School is no crime. It is incontrovertible as geometry to any enlightened community of minds.
C'est un extrait d'un film que vous devez bien connaître. Le résumé est simple, c'est un professeur est attaqué par un procureur fondamentaliste pour avoir enfreint la loi en enseignant des théories de Darwin. Un professeur défendu par le célèbre avocat Henry Drummond, qui est interprété par un acteur qui compte beaucoup pour vous, Karine Viard.
Absolument, et là vraiment le nom échappe.
C'est Spencer Tracy. Dans le procès de singe, c'est la traduction de Inherit the Rind. Parce que je crois qu'à 12 ans, vous vouliez devenir comédienne, mais pas parce que vous rêviez d'être actrice, mais c'était pour Spencer Tracy.
Oui, en fait, quand j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents, regardais beaucoup la télé, donc j'avais vraiment pas accès aux films indépendants des années 70 américains et tout ça. Vraiment, ça, c'était pas du tout ma culture. Du coup, tout passait par la télé, et ce dont je me rendais compte, c'est que les acteurs me faisaient beaucoup plus rêver que les actrices, que les actrices étaient toujours priées d'être soit super rasoires et très jolies, soit si elles étaient marrantes, elles étaient vieilles et moches. Enfin, je veux dire, c'était un peu compliqué.
Ça faisait pas rêver.
Et moi, ce qui me faisait rêver, alors je me suis souviens d'avoir vu un film avec Spencer Tracy que j'avais adoré, et puis après de l'avoir vu en voyou, puis après de l'avoir vu effectivement en juge, et puis après de l'avoir vu en curé, et je me disais mais je veux être lui en fait, je veux être comme lui, c'est ça que je veux faire, je veux pas être Romy Schneider, je veux pas être Françoise Roset ou je sais pas quoi, je veux pas être ces filles là, je veux être Spencer Tracy, je veux faire ça. Je veux être moi-même et faire des rôles très, très différents.
Et là, vraiment, le cinéma, on le comprend, c'est échapper à sa vie et en avoir plein d'autres, en fait.
Il y a une
envie d'évasion.
Oui, c'est aussi garder une grande part d'enfance, qui est très important pour moi. C'est ne pas rentrer dans le rang, c'est ne pas être dans quelque chose de trop conventionnel, c'est avoir une forme de liberté. Et c'est effectivement travailler en groupe aussi à quelque chose d'assez important au moment où on le fait. Ça, tout ça, j'aime beaucoup.
Et justement, au sein même d'une propre pièce, il y a plusieurs personnages, parce que vous êtes Vera, mais ce n'est pas la même Vera du début au milieu jusqu'à la fin.
Là, c'est un personnage qui a de l'amplitude, c'est sûr.
Ouais,
et comme elle a tout un parcours, ce qui est assez rare dans une pièce, je pars de tout en haut et j'arrive tout en bas. Ça, c'est sûr que d'un point de vue d'interprétation pure, c'est juste génial.
Ah oui, parce que la chronologie est formidablement bien menée.
Oui, et puis c'est toujours des petites scénettes comme ça. Donc il faut à chaque fois que quand j'arrive dans la scène, je sois dans une humeur très différente de celle qui vient de se terminer. Mais parfois, ça se fait même à vue, il n'y a pas de noir. Ouais. Je passe d'une scène à une autre et je suis dans une humeur totalement différente.
Alors pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi, nous avons entendu un petit bout de Blondie tout à l'heure, à propos de Karine Viard, qui n'était pas là.
Moi, je n'étais pas là et vous m'avez raconté.
Alors, le mieux, c'est
le tour de Radio France.
Le mieux, c'est de l'écouter.
Elle a une chatte de 74 ans, je pense.
Enfin,
je veux expliquer qu'il y avait une chronique.
Elle fait un droit de réponse.
Il y avait une chronique de ce cher Monsieur Morin en face de moi et qui disait.
Tu parlais chat, toi,
c'est ça, non, qui disait que les. Ici, il y avait une chronique sur les femmes très vieilles. Voilà. Oh là là. Alors, là, je suis sortie, elle avait la chatte posée par terre tellement elle était vieille.
Mais et puis après, non, jamais Daniel
après,
Morin. Mais non.
Si, si. Et après, on passe Blondie et tout le monde s'extasie. Oh, Blondie, qu'est-ce que c'est génial. Et donc, je dis, elle n'a pas une chatte de 74 ans. Non. Et donc, voilà.
Ah, c'était pour défendre les comédiennes.
Je veux le dire.
J'ai entendu cette mauvaise foi.
Vous pensiez que les micros étaient fermés?
Évidemment.
Bien sûr, évidemment.
Promis, la prochaine fois, je ne vous le refais pas. Je vous ressens pas, mais à chaque fois,
ça y est,
je pense
à vous,
mais
Blondie. C'est fini, c'est fini.
On enterre Blondie. Et ça, de 74
ça
ans.
Ça me rend triste.
France Inter. La bande originale, le best-of, avec Nagui.
Hand Me Downs, c'est You Got Man.
Bravo.
Merci.
Chocolat au Calvados, moitié entamé, deux sacs de DVD d'une série de télé, toujours emballée, et trois cravates encrassées, la société où il bossait pendant des années. Là, dessous l'escalier, la photo de jeune marié abandonné. Hand me down all the baggage that you drag around. Hand me down, tied and bound, mes pieds sous une pièce de danse. J'entends ton rire et ta cadence, et ton déhanché, le regard des aînés, un dialogue entamé avec la passée. Et même le petit verre de rhum, c'est ta manière de siroter que j'ai embarqué, tu vois, jusqu'au bout des doigts. Surprise par ton ombre, parfois elle me parle de toi. Hand me down all the baggage that you drag around. Hand me down, tied and bound. Walk with me down the street, you're looking at your granddad's watch. change, but many years ago it starts. Like the time between us, I walk you to the bus, the wind is playing in your hair, and I kiss you goodbye, and I realize the hand-me-downs that I own, you're now one. Hand-me-downs, all the dragon that you drag around. Hand-me-downs, tied and bound. Oh, hand-me-downs, all the baggage that you drag around. Well, hand me down, tied and bound.
Bravo,
you cut man.
Original, les meilleurs moments sur France Inter.
Lorsqu'on vous annonçait la venue d'Emmanuel Devos et de Jean-Loup Dabadie, vos oreilles ont sifflé, Leïla.
Absolument. Et quand je pense à vous, à tous les deux, je pense à un cinéaste que vous avez bien connu, Jean-Loup Dabadie, et un cinéaste, Emmanuel Devos, que vous alliez voir, dont vous alliez voir les films à la Pagode au début des années 80.
Si vous voulez, je regrette même, vous voyez, quand je fais un film, par exemple, je regrette d'être obligé de les interviewer, je ne parle pas de ce qu'on fait en ce moment, mais j'ai un goût pour l'anonymat très grand. Je serais très heureux que mes films sortent à côté des gares. J'aime beaucoup les cinémas qui sont à côté des gares, Cinévox Saint-Lazare, les cinémas comme ça, où les gens rentrent avant de prendre le train et sans savoir vraiment ce que c'est, sans regarder même le titre. Ça, j'aime beaucoup ce cinéma-là, où on a 15 photos et puis on entre ou on n'entre pas.
François Truffaut, Jean-Loup Dabadie, avec qui vous avez fait en 72 Une belle fille comme moi.
Oui, avec Bernadette Lafont.
Et avec qui vous avez failli faire Le dernier métro.
Oui.
Pourquoi failli ? Que s'est-il passé ?
Parce que c'est comme lorsque Emmanuel me fait trembler en disant on n'est pas sûr de faire la tournée, ça dépend de nos agendas.
Voilà.
On va leur mettre la pression.
Je peux dire qu'elle va faire la tournée, la petite.
C'est trop dommage que le public en France soit réduit. Seule notre belle petite place est.
Elle va faire la tournée des théâtres qui sont près des gares.
Comment
ça.
Et donc, en ce qui concerne Le dernier métro, évidemment, c'est un des regrets de ma vie. Pas tout à fait un regret, parce que la raison simple pour laquelle je ne pouvais pas répondre à l'invitation de François, c'est que je commençais un film avec et pour Claude Sautet.
Clara, vous étiez en train d'écrire aussi.
D'agenda. Non, je ne sais pas lequel c'était, mais j'avais signé pour un film de Claude Sautet. Nous avions commencé à travailler. Et je ne pouvais pas, contrairement à ce qui s'est passé, je ne vais pas être long, contrairement à ce qui s'est passé quand j'écrivais César et Rosalie,
oui.
Petite anecdote à vous raconter, parce qu'elle fait partie de notre vie, ce genre de choses, ça serait plus possible, je crois, maintenant, et encore que. Alors, à un moment, je dis à Claude, à un moment de l'écriture, il venait à la maison tous les deux, trois jours pour relever les copies, ma copie, les scènes. Il les lisait, c'était un très grand lecteur, très grand metteur en scène, acteur, bien qu'il n'ait jamais joué. Mais il le jouait pour nous, pour moi, notamment quand on travaillait. Et alors, à un moment, je lui dis, écoute Claude, je suis atteint de je ne sais pas quoi. Je ne peux plus supporter cette femme, Rosalie, le personnage de Romy.
C'est vrai.
Je ne peux plus la voir, je ne peux plus la supporter. Elle serait dans ma vie, j'aurais horreur d'elle. Elle est épouvantable avec Samy, avec le rôle de David, épouvantable avec Montand. Elle les emmerde tous les deux. Quand elle a fini de torturer l'un, elle tourmente l'autre. Elle les fait courir tous les deux. Elle est insupportable. Et je lui dis, une emmerdeuse pareille. Comment tu veux qu'on fasse venir le... Enfin, lui était très colérique. Alors sans doute, par contagion, même dans une colère théorique et ridicule, entre les quatre murs du studio où on travaillait. Et alors, à cette époque, François Truffaut m'avait dit, dès que vous avez fini avec Claude, vous me rejoignez, on va faire Une belle fille comme moi. Et Claude, on était, je dirais, j'en étais à la moitié de l'écriture.
Et Claude me dit, mais écoute, mon coco, tu vas faire une chose, c'est pas compliqué. Il faut que tu te remettes de ça, tu peux pas continuer comme ça. Tu vas aller faire le film avec François, il va être très content. Et puis quand tu auras fini le film avec François, tu reviens et on reprend. C'est incroyable, incroyable de patience.
Va prendre un peu l'air pour, pour te détendre et reviens quand
jouer.
Ça ira mieux.
Il savait qu'avec François, on ne partait pas jouer longtemps parce que François, c'était le Speedy Gonzalez. Il avait 3 films en même temps. Je me rappelle quand on avait fait Une belle fille comme moi, il finissait l'écriture avec un de ses amis de La Nuit américaine et il préparait Adèle H pour Isabelle Adjani. Et au milieu de ça, on faisait, il y avait une grande table où quelquefois je cherchais mes notes, je tombais sur une scène pour Adjani, dans Adèle H, pour autre chose. François était comme ça. Nous arrivons au bout du scénario et François me dit, moi j'ai toujours besoin de rester un peu seul. Avec, bon, c'est une attitude classique, normale. Donc, retournez donc voir Claude. Il sera très content. Claude était dans sa maison du midi, je l'appelle, comme le fils prodigue. Est-ce que je peux revenir? Bon, il me dit, viens mon coco, viens. On a repris. Et 3 mois après, le scénario de César et Rosalie était fait.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
La pièce s'appelle « Quelque part dans cette vie », portée par Emmanuel Devos et Pierre Arditi. Et la pièce était adaptée, librement adaptée, par Jean-Loup Dabédi. Voici l'humeur d'Alison Willard.
C'est pas vrai.
Bonne Saint-Valentin, Alison.
Enfin, merci Nagui, j'ai attendu le texto à minuit, j'ai rien eu. Bonjour à tous.
Non, j'étais avec ma femme.
Est-ce que tout le monde a bien fait sa résa au flunch pour ce soir? Parce que va y avoir des légumes à volonté, si vous voyez ce que je veux dire. Vous l'avez compris, c'est à Saint-Valentin. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, au risque de me mettre à dos les lobbies des fleuristes, des bijoutiers et du latex. Oui, la Saint-Valentin est une fête commerciale, on est bien d'accord. Et alors, j'ai envie de vous dire où est le problème. C'est pas une raison pour pas faire d'efforts. Ça coûte rien d'arracher une fleur d'un rond-point, de m'imprimer les paroles de Lara Fabian sur une carte avec un pchit de Scorpio. Un peu de magie, merde. D'ailleurs, la Saint-Valentin, c'est pas qu'une fête commerciale, c'est une tradition bien plus ancienne. Historiquement, la Saint-Valentin a été inventée pour faire cesser les traditions païennes des Lupercales, des fêtes célébrées par les Romains, où on avait l'habitude de fouetter des femmes en pleine rue avec des pots de bouc pour les rendre plus fertiles. Ce qu'on mais appellerait aujourd'hui des Bertrand Cantal ou du Chabamé.
Attention au harcèlement là, attention.
Des pots de bouc parce que dans les mythologies, les divinités mi-homme mi-bouc sont symboles de fertilité. Faunus Lupercus chez les Romains, Pan chez les Grecs ou Manuel Valls chez les socialistes. Mais alors, pourquoi tapaient-ils sur les femmes? Eh bah parce qu'ils n'avaient pas de bambou, pardi. Non, c'est surtout qu'à l'époque, c'était le sport numéro 1, car les mythologies font souvent référence à des dieux mi-animal, misogyne. C'est le pape, Gélas Ier qui mit fin à cette tradition en décrétant que le 14 février serait dédié au culte de la Saint-Valentin, un moine décapité 2 siècles plus tôt. Moi j'ai envie de dire merci Gélas Ier, c'est vachement plus sympa de recevoir une boîte de chocolat qu'un coup de fouet, même au visage. Et là, je pense à mon mec qui dit que la Saint-Valentin ça coûte un bras alors qu'à Valentin ça lui a coûté sa tête. J'aime trop mon mec qui se découvre une conscience anticapitaliste pour la Saint-Valentin, le genre de Karl Marx d'un soir, le poing levé d'un côté, de l'autre la petite main qui zappe discretos sur Bing Sport pour mater PSG Real. Hey, tu crois que j'ai pas grillé là? Oui, ton maillot du PSG il t'a coûté plus cher que le mien chez Body Minute, ok? Alors ok, on fait un deal. On regarde le match ensemble, mais je te préviens, à la mi-temps tu vas jouer ta saison mon gars. Non, en vrai, on devrait pas autant se mettre de pression comme ça pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin ne m'imposera pas ses règles, l'inverse étant plus probable. La vérité, c'est que pour célébrer l'amour, chacun fait comme il veut. Tu peux sortir le grand jeu, tu peux faire une demande en mariage avec un orchestre symphonique ou demander le divorce sur du Joule, opter pour un dîner en tête-à-tête ou un repas en famille comme Christine Boutin. Jouer la carte de la surprise, l'attendre nu sur des galets façon Cabrel. Tu peux attendre Mathieu Gallet sur du Cabrel si tu veux. Dire à ton plan cul que tu veux qu'il devienne ton plan cœur. Et si t'es seul et que tu te dis que tu penses que tu finiras mort dans ton appartement bouffé par des chats aveugles, dis-toi que c'est qu'une fête commerciale.
Merci. France
Inter, la bande originale, le best-of.
Chacun son maillot, donc ce soir. C'est Real PSG, Alison.
J'ai dit quoi?
T'as dit PSG Real.
Et on n'a pas le droit d'inverser?
Non, Madrid, ça se joue à Madrid, donc c'est Real.
Mais calmez-vous là, les puristes. Ah,
est-ce que je peux faire une remarque?
J'en prie.
Non, je suis très touché, sans doute, ma chère Emmanuel à mon côté aussi, parce que Alison, pour nous recevoir, et pour recevoir Emmanuel, c'est, comment dirais-je, coiffé, habillé, maquillé en Kathleen O'Hara.
C'est vrai,
son personnage,
c'est
qui a ses cheveux. C'est une Irlandaise.
C'est vrai.
Irlandaise. Et quand elle,
mais toi aussi, t'es irlandaise.
Bah oui.
Quand Pierre Arditi parle de la mère qu'on ne voit pas
de Kathleen, il l'a décrit, on croirait qu'il vous décrit vous.
Ah, c'est vrai. Voilà. Oh, bah, ça me touche beaucoup. Écoutez.
Alors, on a pensé que c'était exprès pour nous.
Elle est faite comme ça.
Elle est comme ça
d'origine.
Toutes les semaines.
Elle est d'origine. Et on en est ravis. Et on l'aime, Alice.
Et on peut aller au théâtre pour la Saint-Valentin si vous ne savez pas quoi faire ce soir plutôt que d'aller au resto ou de regarder le foot.
Ou avoir un rapport.
Ou après, tu peux avoir un rapport après. Tu fais ce que tu veux, après moi ça ne regarde pas. Tu peux aussi aller au théâtre. C'est pas toléré.
Nous allons parler des rapports qu'il y a entre élèves et enseignants dans quelques instants avec François Muller qui a signé un livre qui s'appelle Des enseignants qui apprennent et ce sont des élèves qui réussissent. On en parlera avec lui dans quelques instants de ce rapport prof-élève. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un prof qui a compté dans votre vie, Emmanuel De Vos? Est-ce qu'un prof de français vous a donné goût au théâtre?
Madame Giraudot. Madame Giraudot au lycée Victor Duruy, qui était une prof de français merveilleuse et qui nous faisait découvrir Nathalie Sarraute. On était en cinquième, quoi.
Justement, en quoi un professeur peut changer pas que la scolarité, mais toute une vie ou tout un destin. On en parlera avec lui tout à l'heure parce qu'il a enseigné également, que ce soit en collège, en lycée ou lycée supérieur, dans quelques instants. Mais d'abord en musique, Jean-Loup Dabadie, vous écoutiez dans les années 70, ou du moins quand on vous parle des années 70-78, d'un coup, vous avez envie d'entendre.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre.
Romy Schneider, la chanson d'Hélène, quand vous entendez sa voix, vous avez, j'imagine,
beaucoup d'émotions.
Beaucoup d'émotions, oui. Quel genre d'amie était-elle?
Elle était une amie exigeante. D'une sensualité amicale qui ressemblait à l'amour. Elle aurait été dans ce studio, un de ses amis, Albert, moi, vous, serait entré. Elle s'enroulait autour de vous comme si c'était la Saint-Valentin et que ce soit avec elle qu'on fasse un compagnonnage. Elle était comme pour ses amis, donc... Comme une amante tout le temps déchaînée, j'allais dire. Elle était, je sais pas comment dire, elle était exigeante, elle était colérique, elle était attendrie.
Mais fragile aussi. On a l'image aussi d'une femme fragile qui se servait de quelques-unes de ses fissures pour interpréter ses rôles, parce qu'elle était bouleversante quand elle...
Oui, mais là tu parles de lorsqu'elle jouait. Ouais. Dans la vie, elle pleurait autant qu'elle riait, c'est vrai. D'accord. Elle s'emportait pour un oui, pour un non, puis elle était une boule de vie, comme on dirait une boule de feu, et fragile parce qu'elle brûlait, elle s'éclatait, elle éclatait elle-même et en elle-même. Parce qu'il y avait de curieux physiquement. Avec elle, c'est que Romy, c'est un chef-d'œuvre c'est le chef-d'œuvre des maquilleuses et des maquilleurs de cinéma. Quand on la voyait chez elle, ou quand on l'a rencontrée dans une projection, qu'elle n'était pas là pour paraître. Moi, je me rappelle une fois, la petite projection, tu te rappelles, du 36 rue de Ponthieu, là, qui existe toujours, là où on allait voir les films des autres, des amis qui... Et alors on faisait la queue, quelques-uns, dans la pénombre. Et puis il y a une petite personne derrière qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Bonjour quand même, Jean-Loup ». Je me retourne et je vois une petite bonne femme avec un béret grenat jusque-là. Et je ne reconnais pas tout de suite ma Romy, pour que je venais déjà d'écrire « Les choses de la vie », Max et les ferrailleurs, avec Claude Sautet. Et non maquillée, elle était... totalement lisse, et c'était après un émerveillement de la voir au maquillage, voir son visage prendre des couleurs, des expressions, des formes, ouais. et des émotions qu'on retrouvait dans son jeu. C'était une personne simple, très compliquée.
Dans ces années 78, pour être précis, Emmanuel De Vos, vous aussi, c'était une autre forme de tendresse. God save the
queen.
C'est la tendresse tout ça. God Save the Queen, les Sex Pistols, vous revoyez dans quoi, une chambre d'étudiante, une...
Oh bah non, parce que j'étais enfant.
10 ans.
Non, mais ça me rappelle tout le temps. D'abord, moi j'adorais la musique punk.
parce que je trouve que c'est vraiment une musique pour enfants, parce qu'il faut être un enfant pour supporter ça. Et la première fois que j'ai entendu les Sex Pistols, c'était, j'avais un copain qui habitait un grand appartement qui donnait sur le Champ de Mars, extrêmement très Louis XVI, très, ouais, très un peu vieillot comme tous ces appartements du 7e. Et on l'avait mis à ça à fond dans le salon et on courait partout, on sautait en l'air.
J'aime bien les punks qui ont une vue, ouais, sur le Champ de Mars.
Il y a Raymond Barre qui habitait par là.
C'est ça.
Moi j'habitais en face de chez Roger Jiquel.
La France a peur.
La France a peur.
C'est là qu'il a eu l'idée de dire la France a peur.
C'est ça. Et en tout cas, dans ces années-là, 78, Emmanuel, plus précisément, vous montez pour la première fois sur les planches. Vous vous souvenez ? C'était lors d'un festival avec votre...
Ouais. Avec mes parents, ouais. Avec vos parents. Festival d'été, tout.
Donc c'est une première sur les planches. Et en tout cas, vous avez une émotion au Festival d'Avignon quand vous avez assisté à, je crois, aux répétitions où votre père donnait la réplique à Maria Cazares.
Oui,
c'est Jean-Michel, c'est Jean-Michel DeVos, votre père, parce que j'imagine qu'il y a eu souvent des vannes faites avec d'autres DeVos, mais c'est, il est comédien.
Ou Guy Bedos.
Ah oui, c'est vrai, on vous a pris pour la fille de Guy Bedos.
Je pense que je suis la fille de Guy Bedos.
Non, mais ni de Raymond DeVos, ni de Guy Bedos, mais de Jean-Michel. Voilà.
En tout cas, votre beau-père,
jouait avec Maria Cazares au Palais des Papes d'Avignon, effectivement.
C'est les possédés, je crois.
Oui, absolument.
Et là, qu'est-ce qu'on se... c'est une révélation de voir Cazares travailler.
L'avoir travaillé, oui, c'était assez étonnant. Enfin, il y avait une telle ferveur, elle était tout le temps à fond, quoi. Même en répétition, quoi, elle était charmante, vraiment, c'était une femme très gentille.
Parce que vous parliez de Bedos DeVos, c'était Yves Montand, qui était très énervé par mon ami Guy Bedos, en tant que c'est moi qui prenais quand il était en colère lui.
Vous avez écrit quelques sketchs.
Parce que comme Guy, en plus, balançait sur lui en scène, évidemment, très imprudemment et quelquefois à tort, à mon avis, on en parlait. Et plusieurs fois, Montand, pour une espèce de vengeance passant par la sémantique, me disait, tu sais qu'il commence à m'énerver tant de Vos. Tu sais, et pour lui, c'était une vengeance de confondre son nom.
On a appris,
tu sais que si je le vois comme de Vos.
Vous êtes un parolier formidable, évidemment, Jean-Louis Dabadie. On avait appris à ce micro, de la bouche de Guy Bedos, que la chanson Ne me quitte pas avait été écrite suite à la liaison entre Suzanne Gabriello et Guy Bedos. Lorsqu'elle avait quitté. Voilà, c'est Guy qui nous a raconté ça.
Qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais lui téléphoner en disant, veux-tu rétablir la vérité ?
Parce que c'est faux ?
Mais non, parce que vous voulez dire qu'elle aurait trompé Jacques Brel avec Guy Bedos ?
Exactement.
Qu'est-ce qu'il raconte, Guy ? Il avait 8 ans ou, non, enfin, c'est possible, peut-être.
Ah, peut-être.
Il nous l'a raconté.
Oui,
c'est lui qui a suscité la peine.
Je pense pas.
Je sais pas. Guy, c'est un poète. Hein.
Il était précoce à 8 ans.
Oui, non, mais.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Vous êtes bien dans la bande originale sur Inter avec Clara Luciani, La Grenade.
Prends garde sous mon sang la grenade.
C'était Carla Luciani avec La Grenade.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Comme on a pris un tout petit peu de retard, c'est Emmanuel De Vos qui parle beaucoup trop dans cette émission. Nous allons évoquer l'enseignement et revenir à l'enseignement avec vous, François Muller. Merci de venir à ce micro. Vous avez été professeur collège, lycée, supérieur, c'est ça, et dans des milieux que l'on qualifie toujours de difficiles. J'aime pas moi cette expression, mais
ça l'est quelquefois. Hein.
Voilà, mais ça peut l'être pour des profs. En quoi un prof peut changer la vie entière d'un élève?
Demande-moi. Non, je plante.
Oui, c'est une bonne réponse. C'est pas un prof qu'il faut demander ça.
Tu peux me demander à moi aussi.
C'est aux élèves.
Non, mais parce qu'elle a aussi été prof.
Prof aussi, ouais, c'est pour
oui,
ça.
Mais c'est précisément aux élèves. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel, quand vous avez parlé de la pièce, c'est vraiment un transfert que des jeunes font sur des adultes. Et donc, le prof n'a pas forcément l'intention de transformer ou de changer la vie. Ça serait même douteux de cela. Le prof, il a un métier, il a un cadre, il a des obligations.
Oui,
il a aussi des envies.
On a tous, comme Emmanuel, le nom d'un prof à donner.
Nagui, allez-y.
Qui a été essentiel.
Donnez-moi le nom d'un prof.
Monsieur Cousin.
Il était où?
Il était prof, où? Physiquement?
Oui, c'était où?
Cannes, chez les curés, Stanislas, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre?
Eh bien, il faut lui dire merci.
Professeur de mathématiques.
Vous lui avez dit merci.
Je lui ai dit merci, et plusieurs fois, j'en ai d'autres aussi. Hein. Botero, prof de philo, Fajon, prof d'histoire géo.
Très bien.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'intention de l'enseignant que de bouleverser la vie ou de marquer la vie des élèves.
Absolument.
Si ça se passe, tant mieux, mais c'est pas l'ambition de...
Alors, je ne suis pas d'accord quand il y a des professeurs de français qui, justement, prennent sur leur temps libre pour faire des cours de théâtre ou transmettre.
Et alors
chose.
On voit bien, alors c'est la différence, c'est là où les choses peuvent changer, c'est-à-dire que prof c'est un métier, c'est un genre si vous voulez. Après dans le genre il y a des styles différents et effectivement il y a des profs qui se contentent de faire le programme et ils font bien le programme, c'est ce qu'on leur demande de faire, ils sont payés pour
et
ça.
Et d'être pédagogue ou de transmettre.
Et on l'espère, en tout cas c'est le pédagogue veut dire ça, c'est accompagner des jeunes.
Les enfants.
Et puis il y a des styles différents, c'est-à-dire où on a des personnes qui conçoivent peut-être différemment ou un peu plus largement le métier et vont aller plus loin, vont travailler sur des choses qui sont peut-être moins académiques et plus sur les questions du développement de la relation ou développement des ressources des jeunes à ce moment-là. Et c'est là où, Nagui, vous parlez de profs qui sont allés un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être dépassé le cadre purement scolaire et même du temps scolaire pour aller chercher chez des jeunes ce qu'ils avaient en eux.
Alors,
et faire qu'ils deviennent ce qu'ils sont finalement. Et donc, c'est ces questions de développement qui sont assez intéressantes. Et souvent, quand vous avez évoqué les bons profs, c'est souvent des choses qui vous ont apprises ou qu'ils ont développées chez vous, mais qui n'étaient pas forcément d'un très grand académisme, d'une certaine manière.
Ouais. Voilà.
C'est aussi souvent autour, on s'en rend compte autour de cette table avec les invités quand ils parlent des enseignants, souvent le professeur de français revient comme étant déterminant. Alison, toi aussi?
Ouais, monsieur De Vernay.
Bah voilà,
il est où?
Vous voyez qu'on l'a.
Arrêtez avec le
il est où?
Bah, c'est important.
C'est important.
Pourquoi?
Parce que ça se passe partout.
Oui,
c'est pas Emmanuel, c'est pas uniquement à Paris avec Victor Duruy que ça se passe. Oui. Ça se passe, c'est-à-dire que vous avez une qualité professionnelle qui est assez extraordinaire et elle est partout. Est méconnue.
Je reviens sur la matière. Je pense que les profs de français, voire philo, sont deux matières plus propices, en tout cas.
L'histoire aussi.
Nagui, vous projetez.
L'histoire aussi. Mais la musique, le sport. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment. Alors là, parce qu'on reçoit beaucoup de comédiens qui nous parlent du rapport au texte, peut-être. Mais un prof de sport, tout d'un coup, il peut te permettre de révéler une capacité de PS. Oui, de PS, d'éducation physique et sportive. Il peut te permettre de découvrir que tu as un rapport au corps un peu privé. Que t'es habile, et même si c'est pas ta carrière, un peu c'est quelqu'un qui a pu te valoriser à un moment dans ta vie et te dire bravo, ce que t'as fait c'est super, et là on s'en souvient toute sa vie.
Pour vous faire mentir,
s'il vous plaît,
je vous en prie, actuellement se passe, mais ça se passe tous les ans depuis peu d'années, une sorte de concours du meilleur prof du monde.
Oui.
C'est le global T-shirt Awards. Il y a une Française qui était arrivée au 4e l'an dernier.
Prof
et cette
d'anglais.
Année, prof d'anglais, absolument. Et cette année, on a un Français qui arrive parmi des milliers de dossiers. Il est le seul Français sélectionné et donc il est en phase finale. Il s'appelle Patrice Saoula. Il est professeur de cuisine.
Ah. Mais quels sont les critères
Je viens au collège d'Ébréguières à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Et donc, il a été sélectionné sur la base d'un dossier. Alors, quels sont les critères? Il faut en parler avec les élèves. Et donc, ce sont les élèves qui en parlent le mieux, là aussi. C'est-à-dire qu'on est allé voir chez les élèves ce qu'ils disaient, quels effets ils produisaient à la fois pour eux, qu'ils produisaient pour l'établissement, voire même pour le rayonnement de l'établissement. Mmh. Et donc, parce que Patrice lui-même ne revendique pas le titre de meilleur prof du monde, c'est pas du tout ça. Donc, c'est pas quelque chose d'auto-centré ou d'égotiste, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui est profondément développant, et on retrouve le mot même, l'étymologie d'autorité. Quand on dit l'autorité professionnelle, il faut avoir, il faut renforcer l'autorité et plus de règlements, etc. Eh bien, la vraie autorité, on l'a chez des profs que vous avez cités tout à l'heure. Ce sont des profs qui augmentent autorité, c'est augérer, c'est augmenter la possibilité des élèves, augmenter les ressources des élèves. Et donc l'autorité professionnelle, c'est ça.
Pendant que vous parliez, je reçois un texto de Nathalie Garçon, la créatrice de mode, que j'embrasse au passage, qui dit « Si j'osais, cher Nagui, j'appellerais à la radio pour parler de ta maman qui a réellement changé ma vie, je t'embrasse », qui était sa prof de français.
Ah, c'est pas vrai.
Si, je trouve ça trop mignon. Je t'embrasse, Nathalie, très fort.
Voilà. On peut vous écrire pendant l'émission.
Oui, bien sûr, n'hésitez pas. C'est l'avantage du direct, vous savez, ça donne un peu de vie.
Chacun d'entre nous, on aurait une histoire, parce qu'on est passé, chacun d'entre nous, on est passé à peu près par une centaine de profs. Ouais. À peu près, dans notre vie initiale, c'est à peu près une centaine. À peu près, si on compte ça, entre 80 et 100 suivant les scolarités. Et donc, si on vous demande très directement, finalement, qu'est-ce que vous retenez et quel est le prof qui vous a marqué, c'est pas sur les doigts d'une main. Et donc, ça veut dire que vous avez déjà les réponses. Qu'est-ce qu'il a développé chez vous ?
Il y a aussi quelques... Moi, j'ai connu...
Moi, Nagui, ça a été à Sabigny-sur-Orge.
Moi, j'étais prof. Ouais. Je pense que j'étais à la fois un mauvais et un bon prof. Mais j'ai connu des profs qui étaient des vraies ordures aussi, il faut le dire aussi.
Hein, mais
prof de maths qui nous tourmentait, qui nous torturait, qui était un vrai sadique. J'en ai connu plusieurs. Prof de géo. Je pourrais donner des noms. On l'appelait Pistache. Non, un instituteur, c'était une ordure. Il nous faisait des nœuds avec les cheveux, il nous soulevait par les oreilles.
Ah oui,
il y avait aussi une époque où il y avait des profs qui étaient des véritables sadiques. Oui. Et il y a aussi des profs très, très, très ennuyeux.
J'embrasse Marie-Paul, Claverolas au lycée de l'image et du son, qui m'a fait un cadeau merveilleux quand elle est partie à la retraite. Dis-moi. Elle m'a légué sa bibliothèque.
C'est pas vrai.
Quel cadeau.
Faites des enfants.
Quel cadeau.
Justement, il y avait trois livres.
Des belles lettres.
Je voulais savoir les rapports, puisque dans la pièce de théâtre, justement, il y a des rapports qui sont particuliers. Tout à l'heure, je parlais de syndrome de Stockholm. On peut parler presque de rapports incestueux aussi. On ne sait pas trop bien. Il faut aller au bout de la pièce pour comprendre le rapport qu'il y a entre le prof et l'élève dans la pièce. Est-ce que ce sont des rapports d'une autre époque, ce que l'on voit dans la pièce, à votre avis, ou est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a comme ça un rapport très affectif ou très particulier entre le prof et ses élèves?
Ça dépasse de très loin le cadre de l'école. Quand dans la pièce ils se voient, on n'est plus du tout dans le cadre d'une école est là pour apprendre et qui est là pour apprendre ensemble, etc. Mmh. On est sur une autre histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'Emmanuel, actrice, qui va voir son prof. Donc on est sur quelque chose de très subjectif, d'une construction identitaire. Les jeunes sont là, se construisent, et on se construit avec les gens avec qui on travaille, avec qui on vit, autant avec les adultes quand ils sont là, les parents quand ils sont là, mais aussi avec les adultes qui vous entourent. Ça peut être des animateurs, des éducateurs, mais aussi des enseignants.
Et les profs ont autant à apprendre des élèves que les élèves des profs ?
C'est absolument. C'est la question qu'on peut se poser en disant, finalement, qu'est-ce que serait un bon prof ? Parce qu'on parle là des profs marquants. Et on voit bien que c'est assez différent. Un prof marquant n'est pas forcément un bon prof, par exemple. On peut être un prof assez moyen, finalement, dans sa pédagogie, etc. Mais parce qu'il vous aura regardé un jour, parce qu'il vous aura juste fait l'attention et de vous toucher et d'être.
Je vous oublierai jamais.
D'être attentif. Comment vous appelez ?
Alison.
Bonjour Alison.
Oui, mais où ?
Oui.
Sa seule question, c'est où ?
Ah oui, c'est où ?
Et, mais c'est important. Ici et maintenant. Eh bien, là, ça marque.
Où,
et donc, qu'est-ce que peuvent être des bons profs ? C'est précisément. C'est le titre du livre qui est sorti récemment. C'est des enseignants qui apprennent. ce sont les élèves qui réussissent, c'est-à-dire que plus des enseignants se mettent à regarder, c'est-à-dire à reconsidérer ce que sont les élèves et comment ils apprennent de leurs élèves, plus ça engendre de la réussite pour les élèves.
Merci François Muller. Et
moi j'embrasse un monsieur Ikea qui m'a laissé sa table basse.
Le meilleur de la bande originale continue jusqu'à midi et demi avec Valérie Carcenti, Thierry Frémont et en live Hugh Cotman. On se retrouve juste après l'information. Le meilleur de la bande originale, la suite avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Alison Wheeler, Tanguy Pastureau et nos invités Valérie Carcenti et Thierry Frémont et en live Hugh Cotman. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est parti. Cette pièce s'appelle Les Inséparables. C'est un clin d'œil fait à ces oiseaux, à ces statuettes. Et qu'est-ce que l'on peut entendre dans la résonance d'Inséparables aussi? Le lien familial, l'atavisme qui relie le petit-fils avec son grand-père.
Oui, ça c'est vrai. Oui. On est tous. Ils sont encore une fois, Ladislas disait, ils sont tous inséparables dans la pièce. Familialement, ils ont hérité d'une certaine chose. Et donc,
Destin de chacun dépend de celui de l'autre.
Exactement.
Puisque, alors, vous êtes à la fois, on pense, une espèce de muse, mais surtout une belle histoire d'amour avec le grand-père banquier financier,
oui.
doublement interprété par Didier Bourdon, qui joue et son petit-fils, et donc le
grand-père dans les années 50.
Exactement.
Ouais. Samuel et Gabriel.
Mais vous êtes l'artiste slave. Tenir un accent, d'ailleurs, slave pendant toute une pièce, c'est une épreuve particulière.
Au début, c'était important pour moi, puisque voilà, c'était une femme russe, voilà, une russe blanche, c'était important de prendre l'accent. Et à un moment, j'ai eu un petit...
Oui, mais il ne faut pas tomber non plus dans le sketch, la parodie, quoi.
Ah ben non, surtout pas. Mmh. Surtout qu'en plus, moi, j'adore ce personnage. Donc, c'était lui apporter quelque chose, lui apporter l'éloignement, l'immigration, tout ça. C'était très important pour moi. Et à un moment, j'ai douté parce qu'effectivement, ça a été une contrainte à un moment. J'ai failli lâcher et j'ai demandé à Thierry, je dis, ça va, Thierry? Il m'a dit, ah non, lâche pas et tout. Et ça m'a encouragée, j'ai passé ce cap-là, et maintenant je suis libre avec. Mais au début, oui, ça a été une contrainte, mais je suis contente.
Ouais, ça réinvente une voix aussi, j'imagine, tout
d'un
coup.
Oui, bizarrement, ça m'a fait baisser dans les graves.
Parce que votre voix, au départ, comme ça, je l'ai pas reconnue, parce qu'on connaît très bien le ton de votre voix, et je me suis dit, voilà, ça modifie, donc ça amène vers une vraie création de personnage.
Oui. Non, mais c'est, voilà.
Non, mais ça aide à rentrer dans un personnage comme peut l'être un costume.
Bah, c'est une composition. Moi, j'adore les personnages de composition. Plus j'ai une composition à faire importante, plus je suis libre.
Il y a, à propos de liberté, est-ce qu'il y a une part d'improvisation de temps en temps? On peut sentir, notamment dans les moments d'humour, que quelques vannes supplémentaires qui peuvent se rajouter. Je me demande, par exemple, lorsque Didier Bourdon propose non pas de faire un autoportrait, mais de peindre une nature morte.
Le pauvre, il propose pas. Son personnage est complètement coincé, sinon il le ferait pas.
J'entends. Mais dans la liste, quand il dit pomme, banane, est-ce qu'il change de temps en temps, est-ce qu'il rajoute cacahuètes, il rajoute des trucs comme... Non, il change pas dans
son... Non, je crois qu'il a rajouté une fois cacahuètes et il s'est mortifié. Je crois qu'il s'est fouetté pendant 3 jours, il ne fera plus jamais.
Quant à vous, votre personnage amoureux d'un Suédois, de Sven, avec des oreilles formidables. J'adore le côté, il a des oreilles formidables. Je savais pas qu'on pouvait tomber amoureux d'un mec avec ses oreilles.
Il parle de son chat, en fait. Hein.
Oui.
Je parle de mon chat.
Oui, non, mais le point de départ, c'est je suis amoureux d'un Suédois.
Je partage ma vie avec un superbe Norvégien.
Norvégien, pardon. Un superbe Norvégien.
Avec des grandes oreilles et une belle fourrure. C'est mon chat.
Sven. Il s'appelle Sven quand même.
Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est marrant quand on joue pas et qu'on le dit pas dans
le flou. Ex, donc barman du Palace, c'est là où vous rencontrez l'artiste, en l'occurrence, toujours joué par Didier Bourdon, galliériste, qui est à la fois ami et à la fois homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il est, il a les cordons de la bourse, il a signé des promesses de vente, il est obligé de remplir le contrat. Et
c'est
de l'autre côté,
il s'est
un
peu engagé au moment de la grandeur de gloire de Gabriel Orsini et il se retrouve lui-même. Même du coup dans l'embarras, et c'est pour ça qu'il fait tout pendant ce spectacle, pour que tout se passe bien, que le retour à la création vienne le plus vite possible.
Et d'accompagner.
Choyer le fils, choyer le père.
Voilà, et d'accompagner le fils, pour lui, est une solution. Pour qu'il y ait un déclic.
Que ça se passe bien, oui. Que
se mette à
peindre.
Ces retrouvailles soient prolifiques. ramène peut-être un peu de sérénité de ton...
Mais il y a beaucoup de comédie dans le personnage de qu'incarne Thierry.
Il y en a partout.
On a tous le challenge au spectacle. Hein. Ouais. Alors moi, c'était vrai que c'était un travail aussi vers une certaine féminité. Et ça m'a beaucoup intéressé de le faire, d'ailleurs.
Il y a cette histoire de famille, il y a de la création de l'œuvre, comment ça se passe aussi, et tous ces rapports, ces non-dits qu'il peut y avoir dans cette pièce extrêmement bien portée, bien jouée. Je rappelle aussi, mise en scène par Ladislas Chola, avec cette mise en scène rare. Je pense, on a la chance de voir beaucoup de pièces de théâtre, mais j'ai rarement vu, en tout cas, une espèce de cube comme ça, en 3D, tournant et permettant d'avoir tous les angles, tous les prismes, les projections. La lumière, la découverte sur Paris,
c'est super bien fait. C'est pas juste un.
Ça parle aussi de comment l'art peut être utilisé différemment. Pour l'un, c'est un objet d'adoration, de vénération, c'est le cas de Sacha. Pour Gabriel, c'est un acte de guerre et de vengeance, pour faire du mal. Et puis pour mon personnage, c'est une façon aussi de sortir de nulle part. Donc c'est intéressant.
Oui, parce que le personnage...
C'est trois visions, des angles différents d'une même situation.
Oui. Mais Sacha Khlebnikov, elle est peintre. Alors effectivement, elle a pas rencontré un grand succès. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle n'avait pas de talent, d'ailleurs. Enfin, moi, je me suis raconté qu'elle en avait, énormément même.
Elle a au moins celui de savoir analyser la peinture, elle a quelque chose.
Oui,
elle...
non, mais je pense que c'est une portraitiste. D'ailleurs, il y a un des personnages qui dit « tu as beaucoup de talent » en parlant d'elle, enfin, son père. Donc voilà, et moi je pense qu'elle avait beaucoup de talent, mais en tout cas, elle a le talent qu'elle a... Il y a une petite souris dans le...
C'est une petite souris. On va se rendre compte de l'âge d'Albert, parce qu'il grince.
Il est arrivé à un âge où il grince. On n'est pas, je mets un peu d'huile.
C'est la hanche.
Bande de salauds.
Non, ce que je veux dire sur ce personnage et sur l'histoire dans les années 50, c'est que c'est pas une histoire d'amour d'un amant et d'une maîtresse. C'est une immense histoire d'amour. C'est une histoire d'amour romanesque, forte, profonde, immense, rare. Et c'est parce que c'est une histoire d'amour rare qu'elle va résonner encore après la mort de cette femme. Et ce qu'elle va faire, le geste de léguer, elle lègue un lieu, mais c'est pas ça qu'elle lègue. Elle lègue l'amour. Oui. Et c'est très important de le dire.
Et les secrets de famille qui vont ensemble, dont on a parlé aussi.
Forcément, en léguant l'amour, il y a des choses qui vont se révéler.
Les histoires d'amour qui sont autour.
Voilà.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Au théâtre Héberteaux, ça a commencé en janvier. Allez profiter et vous régaler avec cette pièce. À 12h13, pardon pour ce retard, voici celui qui maltraite l'info sur Inter, Tanguy Pastureau. Tanguy, donc, les filles, je sais pas comment ça s'appelle, les filles autour des Formule 1, c'est fini.
Oui, les grid girls. Les grid girls, c'était ces filles sexy, chargées de tendre la poitrine vers l'avant et les fesses vers l'arrière. La plupart mouraient dans d'atroces souffrances après s'être claqué le bassin. Elles étaient jeunes, au minimum 18 ans, au maximum 18 ans et un mois, et empêchaient l'amateur de F1 de réfléchir au fait que voir tourner des voitures pendant 2 heures n'a pas de sens. Hein, il vaut mieux faire l'amour. Certes, il reste 1h57 à combler, mais au moins, on participe. En tout cas, on essaye. D'autant que Christopher Froome, bien chargé, quand chez le docteur, il vient de s'asseoir sur un tapis de seringue, tel un fakir sans poils, il va aussi vite et sans faire de bruit. Bref, les filles étaient là, alanguies et lascives, à regarder des couillons gaspiller du champagne en s'en aspergeant les uns les autres. Ce que chez Bernard Arnault, première fortune française, on appelle simplement la petite douche du matin. Mais Liberty Media, le promoteur de la F1, a compris récemment que les femmes n'étaient pas des objets. Un matin, le boss de la boîte a entendu une voix lui demander « Chérie, tu me passerais le beurre ?» Il a levé les yeux et face à lui, il y avait son épouse en train de parler. Donc il a réfléchi, s'est dit « Si cette dame est un être sensible, à l'instar d'Ayrton, mon chat, capable d'exprimer un choix, le beurre plutôt que la confipote, les petites nanas gaulées que je place partout le long de la route, tel Édouard Philippe des panneaux 80 km/h, sont peut-être aussi des gens et pas juste des corps tendus comme des pots de bouc sur des jumbés de zadistes. » Donc, il téléphone à son adjoint, lui dit « Je viens de découvrir les femmes. » L'adjoint répond « Quoi ? Vous, patron, vous étiez gay ?» Le boss dit « Non, tu rigoles, on est quand même dans la F1. D'ailleurs, là, je suis en train de boire de l'huile de vidange avec la main gauche dans le feu et j'arrive plus à me lever à cause du poids de mes bourses. » Mais il décide quand même d'arrêter les grid girls. « C'est sexiste, » dit-il, « ça ne correspond plus aux normes sociétales. » La dame a
Thomas Grossin avec un drapeau, c'est fini. Même si une fan de François Bayrou faisant du 95C brandit un drapeau du MoDem lors d'un congrès, elle sera évacuée. Ce qui fait que restera dans la salle François Bayrou. Donc là, Sean Bratchis, directeur commercial de la F1, se dit, bon, les grid girls, on n'en parle plus, ok, mais il faut les remplacer. Hein, car les filles indiquaient au pilote l'endroit où était garée sa voiture. Hein, donc là, ça va être le dawa. Lewis Hamilton va partir avec la Fiat Punto de la dame qui passe l'aspi. Ainsi, elle est branchée sur Fun et guide du David Guetta, il va vouloir éteindre. Et là, paf, le mur. Il réfléchit, ouais. Hein, ce qui dans le sport se pratique aussi peu que le ball trap à l'école des jeunes aveugles, et se dit, Eureka, on va remplacer les filles par des gosses.
Donc il y aura des grid kids à la place des grid girls.
Oui, les mecs ont étudié l'expérience chinoise, ils se sont dit les enfants bossent bien, ils acceptent qu'on les paye en bon bec, et quand il y a un accident du travail, il suffit de leur dire, attends, je vais souffler sur le bobo. Hein, là où un adulte va geindre et menacer d'appeler Julien Courbet. Il va donc y avoir des grid kids, hein, qui après sa victoire vont tendre à Sébastien Vettel une bouteille de Fanta pour qu'il arrose le deuxième, et les deux mourront attaqués par des frelons asiatiques attirés par le sucre, ce qui fera de la place pour les étoiles montantes de la course auto, Benoît Magimel et Mathilde Seigné. La seule façon pour les anciennes grid girls de garder leur job, c'est donc de mettre une cagoule, débouler en trottinette en chantant l'âne, trop 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 rigolo, et là on leur signera un contrat. Et ce n'est que le début, les filles sexy partout vont être remplacées par des enfants. L'an prochain, Foucault va se retrouver face à 25 fillettes de 6 piges en train de défiler en mini costume régional. Au salon de l'auto, sur les stands, ça va être des petits morveux qui vous diront « Prends celle-là, papy, il y a des écrans DVD derrière, ça évitera à tes gamins de se taper tes CD de Serge Lama. » Même la pub pour le parfum dehors, Nathalie Portman. Miss Dior, ce sera Gloria des Kids United qui dira « Achète ça, gros, ça sent grave bon. » Mais pendant qu'on était en train de surveiller les migrants, ce sont nos enfants qui nous ont piqué nos emplois. Hein ? D'ici 2 mois, Florian Philippot et les Patriotes vont manifester devant le groupe scolaire Jules Ferry. C'était comme Karine Ferry, mais avec du contenu. Au cri de « Dehors les gamins, vous mangerez pas notre pain !» Alors à noter qu'en Angleterre, la fédération professionnelle de fléchettes vient aussi de se séparer de ses hôtesses. En fait, toutes les activités ennuyeuses, il y avait des filles à poil en train de tanguer du huc hein, pour faire passer le truc. Plus c'était pénible, plus c'était hard pour compenser. Dans les clubs de bridge, il y avait des gens tout nus dans des cages. Et avant chaque prise de parole d'Edouard Philippe, des filles en slip chevauchaient un portrait de Macron en se léchant les lèvres. Alors il reste la moto. La Fédération Internationale de Moto a annoncé qu'elle gardait ses grid girls. Toutes les filles au chômage attendent devant pour se faire embaucher. Les anciennes de la F1, celles qui bossaient dans les fléchettes, plus Zaya, remplacée sur son compte Instagram par le petit Enzo, 6 ans. Fini les belles plantes, place au bonsaï.
Merci Tanguy Passion.
La bande originale, le best-of.
Et c'est vrai, sur le Tour de France,
oui.
C'est des filles aussi qui sont sur les podiums et qui font les bises, qui remettent les maillots. Et toutes ces filles-là, il a raison, tant qu'il passe sur eux, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme métier ?
Bien, elles vont avoir d'autres métiers.
Et si elles remplaçaient les enfants qui rentrent sur les terrains de foot avec les footballeurs ? C'est-à-dire que chaque footballeur rentre avec une...
Toi, tu perds pas de l'heure.
Ben non, mais il faut...
Et les rugbyman aussi.
Et les rugbyman aussi, ouais. C'est parfait. Bon, bref.
Les hôtesses d'accueil, on appelle ça.
C'est vrai ?
Moi, j'ai beaucoup fait ça.
Moi aussi, j'ai fait ça.
Toi aussi ?
Mais pas en string et en maillot de bain sur...
Mais non, j'ai fait au salon de l'auto et crois-moi, j'ai un autre regard sur les hommes.
Non mais sans blaguer.
Ah bah bien sûr.
T'as fait ça au salon de l'auto.
Ouais mon gars.
Non mais pour distribuer des prospectus pour...
Je sais pas pourquoi, pour briser mes rêves sur l'amour quoi. Non mais c'est vrai que c'est tu fais ça pour gagner des sous à une certaine époque et puis après ça te fait quand même réaliser que pourquoi c'est tentant une nana à côté d'une voiture.
Et vraiment tous les hommes parlent mal.
Dans le milieu de l'automobile, c'est quand même un peu particulier. Moi, j'ai fait ça quand j'étais étudiante, accueillir des gens d'une certaine marque automobile dans un palais des congrès pour leur indiquer où il fallait aller ou des choses comme ça.
Ouais.
Et franchement...
Mais c'est hôtesse, donc on est d'accord.
Hôtesse d'accueil. Il y avait des garçons aussi, donc c'était pas à la queue des filles, mais c'était quand même une sorte de misère sexuelle pour eux. Enfin, je comprends pas, pour parler comme ça aux jeunes filles ou les regarder comme ça, il faut vraiment qu'à la maison, ça soit une tristesse absolue, quoi.
Ouais, oui, il y a le côté je viens m'encanailler à Paris, je viens m'encanailler à Paris, je suis seul.
Moi, je c'était dans non mais c'était dans le Poitou.
Ouais, mais
c'est pire.
Ah, pardon, je suis désolé.
C'était pire.
Oh my god.
C'était à côté de Florence
Cohen. Voilà, un secret de famille.
Ouais. Ben non, j'ai rien fait moi, mais toi te dire que j'étais pas loin d'en dégager, enfin d'en décoller quelques-unes.
Non, mais c'est aussi parce que les parce qu'ils sont en groupe, parce qu'ils sentent
c'est la meute,
c'est la meute.
Ça sent la transpi et
tout. Voilà, il y a une nana et ils font les cons. Enfin, ils sont
ouais, bien aussi ce qui est pas là en l'occurrence les filles, c'est vrai qu'elles étaient pas sur les stands de Formule 1, elles ne sont pas énormément habillées. Il y a le côté forcément jupe, talon, chemisier.
Il y a eu cette polémique-là au salon de l'auto où maintenant les hôtesses ne sont pas obligées d'être en talons. Parce que longtemps, on les a obligées à porter des talons. Alors imagine toute la journée, les meufs, elles sont sur du 12.
Elles ont 12 heures par jour.
Elles ont le dos défoncé. Alors que tu peux être en ballerine et ça va, quoi.
Oui, je ne vois pas de quoi vous parlez.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Retour avec la musique maintenant, celle de Hugh Goldman. Et il nous offre une reprise des Loving Spoonful, ça s'appelle Daydream, en live dans la bande originale.
Daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun. Since I woke up today, starring me and my sweet thing, 'cause she's the one that makes me feel this way. And even if time is passing by me a lot, don't give a damn about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for betting my load up high in the face for being a sleepy old
Nagui.
Après le rêve de Daniel Morin.
Ah, le thé.
comédie, le musical, le showbiz, la drogue. Univers de rêve, de délicatesse et d'émotions mélangées. Univers sans limite, où l'on peut faire feu de tout bois. La preuve, en avril 2019, devrait se monter une comédie musicale ayant pour thème Bernadette Soubirous.
Mais quelle idée de génie!
Ah bonjour mon père, ça vous plaît comme idée?
Enfin, enfin un spectacle rédempteur pour que ces suppôts de Satan que sont les comédiens, et surtout les producteurs, pour qu'ils trouvent grâce aux yeux du Tout-Puissant. Tout-Puissant qu'ils blasphèment à longueur de pièces interlopes où la luxure et le vice transpirent de tous leurs pores.
En même temps, ça risque d'être légèrement soporifique, une comédie musicale consacrée exclusivement à une jeune fille dont la seule actu est d'avoir vu 18 fois la Vierge.
Oui, c'est pas faux, mais il suffit de rajouter un peu d'action extérieure pour que ça devienne un chef-d'œuvre artistique et mystique à la fois.
Moi, je dois avouer que c'est un faux spectacle mélangé à la proposition du père Albert m'a légèrement intrigué. Et moi, quand je suis intrigué, je fatigue. Et quand je fatigue, je m'allonge. Et quand je m'allonge, je pionce. Et quand je pionce, je rêve. Dans mon rêve, je suis chez moi en train de faire du jet ski dans ma baignoire. Fatigué par mes slaloms entre la brosse, le gant et la savonnette, je fais une pause et m'installe devant ma télé pour voir les bandes annonces des films qui sortent en ce mercredi 7 février. Bon. Ce mercredi, ne ratez pas le dernier volet de la saga érotico-SM la plus affolante. 50 nuances de gris. Dans cette troisième et dernière partie, Christian et Anna profitent pleinement de leur relation amoureuse et tortueuse. Mais une menace vient mettre en péril leur vie commune et piquante. Anna, je t'aime à ma manière, mais je t'aime, tu sais.
Oh, moi aussi, je t'aime, Christian.
Ah, l'amour.
Aïe, je t'aime.
Mais c'est quoi ça? On dirait bien une menace. Chaud devant. Et sans que je m'y attende, une deuxième bande-annonce très perturbante s'est mise en route. Ce mercredi, ne ratez pas l'événement érotico-miraculeux sadomaso le plus affolant. 50 nuances de Soubirous. Le père Albert Soubirous profite pleinement de sa vie d'illuminée faite d'apparition, mais une menace vient mettre en péril sa sainte et pieuse existence.
Oh! Oh, c'est toi qui reviens me voir, sainte vierge. Je t'écoute. Tu veux que j'aille de par le monde au volant de ma camionnette bâchée cuir clouté recueillir les jeunes en recherche? Eh bien, si telle est ta volonté, je le ferai, très sainte vierge.
Malheureusement, les nouveaux voisins du père Albert Soubirous viennent quelque peu perturber sa sainte vie. T'es où, chérie?
Je suis là.
Oh, mon amour.
C'est bon.
Mon Dieu. Seigneur, arrête de me soumettre à la tentation.
Je t'aime.
Oh, j'aime prier, mais j'aimerais tant me faire fouetter aussi. J'en peux plus.
Arrêtez, c'est dégueulasse.
Va des rétro, satanos diabolicum, sadomasos. Laisse-moi. Ne me soumets pas à la tentation du fouet, de la cravache, du martinet, de la matraque, des menottes, de la chégène, de la cire brûlante, de la boule de cuir et du poppers.
Ta mère fouette des prêtres en enfer. Le père Albert Soubirous résistera-t-il à la tentation de la molestation de l'âme et de la mortification de la chair, ou bien tombera-t-il corps et âme dans les méandres du vice avec cicatrices? Vous le saurez en allant voir 50 nuances de Soubirous. À demain.
Merci, Albert.
La bande originale, le best-of. Avec Nagui.
Et puis on n'a pas de désolé parce qu'on était très contents de cette émission aujourd'hui.
Super.
Et garde tes désolés pour demain. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons là demain, même heure, à 11h sur Inter. En attendant, l'heure des carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée.